printemps 2021, derrière les portes fermées de la Friche Belle de Mai à Marseille, une exposition a vu le jour. Elle présente uniquement des artistes algériens et algériennes ou issus de la diaspora. Cette exposition s'appelle « En attendant Omar Gatlato » et à cause des mesures sanitaires, elle est fermée au public. Alors, à défaut de la voir, nous vous proposons de l'entendre. Ce podcast est signé Soizic Pinault et Lila Leclanche et il a été produit par Manifesto 21 avec le soutien de Triangle Astéride. Épisode 2, une archéologie du présent. En 1928, 10 ans après l'armistice, la France fait construire au beau milieu d'Alger-Centre un monument en mémoire des Algériens et Français morts au combat. C'est Paul Landowski, un artiste parisien, qui signe le mémorial. Exactement 50 ans plus tard, l'Algérie désormais indépendante s'apprête à recevoir les Jeux panafricains. En tout, 44 nations du continent africain sont au rendez-vous. La statue de Landowski, érigée par d'anciens colonisateurs, fait tache. L'État algérien décide alors de la remplacer et missionne Mohamed Issiahem, un peintre majeur de l'époque. Mais parce qu'il ne veut pas détruire l'œuvre d'un autre artiste, Issiahem décide de faire construire autour du monument un coffre en bois sur lequel sera édifié le nouveau monument aux morts. En 2012, alors qu'on fête les 50 ans de l'indépendance, le coffre se craquelle et laisse apparaître une brèche. Une fissure hautement symbolique qui, si elle est vite réparée, fera couler beaucoup d'encre. L'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'en 2013, l'artiste algéroise Amina Menia décide de lui consacrer une œuvre.
Je vis à Alger et mon travail est basé sur la ville d'Alger, sur l'histoire, l'architecture, les petites histoires d'Alger. Moi, j'adore l'urbanité, je déteste la campagne, je ne chante bien que dans ma ville, que en ville. Et donc, depuis toujours, ma matière, mon pain quotidien, ça a été de me pencher sur ma ville, sur ses rues, sur ses histoires, sur sa transformation. Donc, je regarde, je suis tout le temps le nez à l'air quand je me promène, je regarde ce qui se passe, les noms de rues qui sont changés, les nouvelles déviations, un immeuble qui tombe, une nouvelle dent creuse, tout ça, les panneaux d'affichage, les panneaux de signalisation, ce qui part, ce qui disparaît, ce qui est détruit, ce qui meurt par la nature, ce qui est vandalisé, ce qui ne l'est pas. Vraiment sur ça, je suis tout le temps dans l'observation et dans l'accumulation. Et j'avais remarqué que dans nos rues, en fait, les seules formes d'art qui étaient, on va dire, permises, autorisées, encouragées, étaient ce qui était monuments, stèles, commémoratives. À savoir toujours tout ce qui revient à célébrer notre guerre d'indépendance, notre guerre de libération. Et donc, il y en a, sans exagérer, il y en a des milliers sur le territoire. Entre les stèles et les monuments qui ont été érigés par la France, qui ont été récupérés, réagencés par les Algériens, ou ceux qui ont été nouvellement créés aussi. Et donc, on va dire, j'ai fait une dizaine d'années de recherche sur ces monuments-là. J'en ai tiré 3 grands projets. Chrysanthème, Enclosed et Monuments in Exile.
C'est justement Enclosed qui est présenté dans l'exposition. C'est une véritable documentation sur le monument de Landowski et Issiahem et les polémiques qui l'ont entouré à travers l'histoire. Amina Menia y réunit des photographies, des coupures de journaux, des dessins, des objets de l'époque et même une vidéo dans laquelle témoigne l'assistant de l'artiste.
Et encore, c'est vraiment mon travail, mon effort personnel, je dirais même mon amitié, qui a fait que j'ai pu un peu remplir la vitrine, quoi. Parce que sinon, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire le dessin technique, c'est moi qui l'ai fait. La photo d'Issiahem en tablier devant l'œuvre, bah, ça c'est la famille qui me l'a donnée. C'est quelque chose d'ultra personnel. Je me suis retrouvée finalement très souvent dans la position d'un archéologue de l'urbain ou d'un archéologue du présent, je dirais, à devoir toujours rassembler les fragments et puis toujours à laisser entendre ce qu'il y a entre les fragments, c'est-à-dire ce qu'il y a entre les lignes, très souvent. Effectivement, j'ai remarqué aussi que souvent, il n'y avait plus de l'archive que des choses du présent. Parce que les choses qui sont du présent, les choses que vous vivez, vous, moi, là, comme ça, ce qu'on vit tous les jours, n'est pas encore accessible, n'est pas encore visible, n'est pas... Par contre, ce qui est de l'ordre de l'archive, donc du passé, il est peut-être des fois plus accessible. Voilà, c'est comme ça dans notre pays, mais c'est ainsi.
À l'image de Enclosed, plusieurs œuvres de l'exposition documentent le quotidien de l'Algérie et de sa diaspora ou évoquent une période de son passé. Kader Attia présente plus de 300 clichés de femmes, d'hommes et d'objets pris dans les années 90 à Paris comme un témoignage de l'époque. Ahmed Merzaghi, lui, met en lumière le quotidien des camps de réfugiés du Sahara occidental, une zone de conflits internationaux à la frontière de l'Algérie, du Maroc et de la Mauritanie, et dont on parle peu.
Oui, il y a certainement cette idée-là, c'est-à-dire de montrer quelque chose que je dirais qui n'est pas totalement invisible, mais qui a perdu sa visibilité au fil du temps, avec une sorte de vulgarisation de l'affaire et une sorte déjà de vulgarisation de la violence en général, et puis de une question qui est restée trop longtemps en suspens et qui a perdu tout intérêt déjà journalistique ou bien documentaire, et essayer de donner une certaine visibilité à cette affaire-là dont on ne parle plus, qui tombait un peu dans l'oubli pour tout le monde jusqu'à dernièrement, jusqu'à la reprise des combats armés.
Son œuvre mêle l'audio à la photographie. C'est dans le cadre d'une résidence de Box 24, un centre d'art algérois, et d'Artifariti, une structure artistique pour les droits du Sahara occidental, que Ahmed Merzaghi a élaboré ce projet.
C'est-à-dire, j'essayais de documenter ce qui se passait là-bas, mais à travers mes yeux, mon appareil à moi, et ma vision de la chose. Et même en le montrant aux gens, c'est-à-dire l'œuvre finie, établie, produite, était ma vision et ma pensée, mon approche à moi, à cette question que j'essayais de traiter. Donc c'est beaucoup plus documentaire et artistique que journalistique.
Dans l'exposition, Sofiane Zougar présente des images d'anciens camps d'entraînement et postes militaires. Ils datent des années 90, la décennie noire, et sont désormais abandonnés ou en ruine. Avec ses photographies et diapositives, l'artiste interroge l'amnésie qui entoure cette période. Parce qu'en l'absence de passé, comment construire le futur ?
Il y a un livre très important pour mes recherches et très important, je pense, pour tout le monde.
Natacha Marie Lorenz, commissaire de l'exposition.
Si c'était à moi de le faire, je jetterais des plaques de ce livre par des hélicoptères. Ça s'appelle « Le trauma colonial » de Karim Al-Azali, publié en 2019. C'est un travail d'analyse fait par une psychanalyste franco-algérienne qui a une clinique, un cabinet à Paris et un cabinet à Angers, et qui, depuis 20 ans, je pense, travaille sur des questions de traumatisme individuel et collectif dans la population franco-algérienne et algérienne. Et elle décrit un phénomène de blanc historique que décrit aussi Benjamin Stora, qui décrit aussi Atia Jabbar, d'un manque de langage, de structure historique pour raconter l'histoire de l'Algérie à cause de plein de choses, des ruptures dans l'accès aux archives des deux côtés de la Méditerranée, mais surtout la situation coloniale. Le colonialisme est basé sur l'idée que le pouvoir français, on va dire, a le droit de décrire, de définir l'histoire en Algérie. Et quand l'indépendance est passée, quand la libération a été gagnée, Il y avait une rupture, parce que les Français, ça faisait 130 ans qu'ils disaient « nous, on est gardiens de l'histoire ». Et je pense que ces démarches artistiques comme Amina Menia, comme Sofiane Zougar, c'était un travail de terrain pour essayer de récupérer le droit de parler, d'établir l'histoire par des documents produits en Algérie par des Algériens, d'essayer de se reconstruire en tant que sujet historique.
C'est vrai, c'est ça. Je suis là à combler, à mettre des liens entre les choses. Et puis surtout, moi, parce que je suis beaucoup dans la suggestion, donc j'aimerais bien que les gens devinent ce qu'il y a aussi entre les liens. Ne voient pas seulement les liens. Moi, je voulais mon credo, c'est telling stories with fragments. Donc c'est vraiment prendre les petits bouts, essayer comme ça de donner à voir, de laisser entendre, comprendre, etc.
Ce que raconte Amina Menia, ce n'est pas seulement l'incroyable histoire d'une statue. Elle parle aussi de la mémoire des lieux et de leur emprise. Elle parle d'histoire et de politique.
J'étais à une étape de mon travail où je me penchais sur la décolonisation du paysage. Et donc, l'idée derrière le fait comme ça de vouloir l'ôter du paysage, comme ça, c'était un moment, c'était pour l'enlever de notre paysage et de dire, voilà, c'est quelque chose qui est hautement, voilà, symbolique, colonial, etc. Il faut que ça disparaisse de notre paysage. En même temps, c'est un peu débile les premiers degrés parce que il est planté à l'endroit même où c'est le plus haussmannien, le plus colonial de la ville, quoi. Il est vraiment dans la partie de la ville qui ressemble franchement aux carrés, aux Tuileries, les arcades, la place, enfin tout, quoi. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi affiner toutes les phases et toutes les strates de son histoire. On peut pas effacer, c'est pas possible. On a voulu classer la ville, la cité historique, parce que chez nous, à Agen, c'est la Casbah qui était cité historique. Mais les architectes se sont battus pour que tous les côtés haussmanniens, vraiment colonial, et d'ailleurs très haussmanniens de la ville, soient aussi cité historique. Parce que il fallait qu'aujourd'hui, à l'endroit même où on parle, on se dit, voilà, cette partie-là de notre vie, c'est la cité historique aussi. Et pas cette chose qu'on n'assume pas, c'est cette partie de la ville qui quoi, on sait pas. C'est pas bâtard, c'est nous. Donc, je suis très heureuse qu'aujourd'hui, ça fasse partie donc de la cité historique, avec le recul de l'histoire, tout à fait normalement. Vouloir effacer comme ça, comme si on allait gommer d'une gomme magique ce monument-là de la ville, bon, ça aurait pu être fait, hein, ils auraient pu le détruire, tout simplement, ça aurait pu être fait. Heureusement, ça ne s'est pas fait. Heureusement, l'histoire est là. Heureusement, il y a cette espèce de double écriture. Et lui, d'ailleurs, dans ses mots, il disait, je le conserve pour les générations futures. Voilà. Il le protégeait de nos décideurs. C'est incroyable. Il n'y a rien de plus beau.
Le travail d'Amina Menia, qui vraiment va fouiller un peu l'histoire algérienne et les strates de l'histoire à travers une statue, comment une statue peut raconter des pans et des pans de l'histoire de l'Algérie d'aujourd'hui. D'ailleurs, en fait, c'est marrant parce que en regardant ça et en voyant le débat qu'il y a aujourd'hui sur les statues et déboulonner les statues aujourd'hui, je me suis dit, mais en fait, les mecs, à l'époque, en Algérie, ils avaient tout compris. Il ne faut pas déboulonner. Il faut garder et tu demandes à des artistes d'intervenir sur les statues, quoi.
Lui, c'est Hassan Ferrani. Il est réalisateur. Son truc, c'est le cinéma du réel. Alors, par défaut, lui aussi, il documente. Mais dans l'exposition En attendant Omar Gatlato, ce sont des photographies et une séquence vidéo de 17 minutes qui sont exposées, aux côtés d'une nappe en toile cirée.
C'est aussi un regret par rapport à mon précédent film qui était dans ma tête, Un rond-point, qui tournait dans les abattoirs d'Alger, qui est un lieu un peu mythique, construit en 1890, en plein cœur d'Alger, tu vois. Et j'avais fait ce film, et quelques années plus tard, les abattoirs ont été détruits. Et je me suis mordu les doigts de ne pas avoir fait de photos à cet endroit. Parce que j'ai aussi une pratique photo, j'aime beaucoup faire de la photo. Je me suis dit, merde, pourquoi j'ai pas gardé aussi une trace photographique de ce lieu? Parce que c'est pas la même chose quand tu fais un film et que tu fais des photos, la démarche n'est pas du tout la même.
Pour ne pas faire la même erreur, il prend plusieurs pellicules avant et après le tournage de son dernier long métrage, 143 rue du désert. Pourtant, quand on lui demande s'il crée de l'archive...
Écoute, ça vient après. Parce qu'au départ, moi, je suis vraiment happé par des lieux et des gens. J'ai pas du tout... Je ne peux pas réfléchir un projet avant d'avoir rencontré les gens ou d'avoir mis les pieds quelque part. Après, il y a plein de gens qui travaillent différemment, des gens qui font des repérages sur Internet et qui réussissent. Mais si je ne rencontre pas la personne et le lieu, et s'il n'y a pas d'évidence, s'il n'y a pas de nécessité, je ne fais pas le projet, quoi. J'essaie de fonctionner en tout cas comme ça. Une fois que j'ai rencontré Melika, en fait, ça a été très vite. Au bout de 2 heures, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un film à faire ici, qu'il y avait un travail à faire artistique, en tout cas de pousser un peu la chose avec elle et d'essayer d'explorer ce 20 mètres carrés qui raconte tellement sur l'Algérie d'aujourd'hui.
Malika, la gardienne du désert, est le personnage principal du film de Hassan. Elle vit au beau milieu du Sahara, dans une minuscule buvette où elle sert le thé aux routiers.
En fait, pour moi, c'est vraiment le lieu qui représente une Algérie fantasmée. Mon Algérie à moi que je fantasme, d'une certaine manière. C'est vraiment l'agora de démocratie. C'est cette Algérie qui est possible et qu'on voit de tous les jours, où tu as un peuple qui en avance sur son gouvernement, sur ses politiques, et du coup vont avoir le vivre ensemble existe quoi d'une certaine manière. Mais de temps en temps il est mis un peu en péril, en échec et mais dans ce lieu-là on voit que un barbu peut rencontrer un écrivain à la Kerouac, qui a une touriste qui vient de Pologne. En même temps, il y a, tu vois, c'est pour moi, voilà, c'est une image fantasmée de l'Algérie que pourrait être ce lieu. Mais après, Malika, pour moi, ne représente pas l'Algérie. Malika devient un personnage presque de fiction dans mon film. C'est-à-dire, à travers ce qu'elle raconte, j'essaye de raconter l'Algérie en creux, d'une certaine manière. Mais elle ne représente pas du tout l'Algérie, elle représente elle-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est différent, quoi.
Dans le prochain épisode, nous parlerons d'héritage et de transmission, et la parole sera à nouveau donnée aux artistes. En attendant, nous vous invitons à visiter la version virtuelle de l'exposition sur le site de Triangle Astéride. Merci à Amina Menia, Armen Merzaghi, Natacha Marie Lorenz et Hassan Ferrani, ainsi qu'à toute l'équipe de Triangle Astéride. Merci également à Albe et à Belle Enfant pour les notes qui ont rythmé cet épisode, ainsi qu'à Habibi Funk pour la musique que vous entendez au générique. Elle est issue du film Omar Gatlato et a été composée par Ahmed Melek. Et merci à vous de nous avoir écoutés.